J'aimerais commencer notre méditation de ce matin par cette citation anonyme. Il n'est peut-être pas de meilleure recette pour rester jeune que de consacrer son énergie à autre chose. Aujourd'hui, tout nous attire vers la jeunesse. Les magazines que nous lisons, les vitrines des centres commerciaux devant lesquels nous passons, les films que nous regardons, les publicités que nous comparons, les crèmes anti-rides que nous achetons, peut-être. La société nous pousse vers un culte de la jeunesse, qui devient un objectif en soi, voire une vertu. Pourtant, rien n'a jamais ralenti le vieillissement de l'être humain, et rien non plus ne l'a jamais épargné d'une mort certaine. Au mieux, on vit un peu plus longtemps qu'avant et on quitte ce monde plus âgé qu'avant, mais la mort est inévitable. Alors quel est le sens de la vie? Pour nous, dans cette église ce matin, et pour vous qui nous écoutez depuis votre salon, dans votre voiture ou ailleurs, quel est le sens de la vie? Le but de la vie est-il réellement de rester jeune, comme notre société nous invite à le croire? Et dans ce cas, si le meilleur moyen de le rester, c'est de consacrer son énergie à autre chose, à quoi devons-nous la consacrer? Un homme de l'Ancien Testament, dont nous avons entendu quelques phrases tout à l'heure, a beaucoup réfléchi à cette question. Et le fruit de sa réflexion nous est parvenu sous forme d'un livre de l'Ancien Testament. Cet homme, c'est l'Ecclésiaste, comme je disais tout à l'heure, qu'on appelle aussi le Qohélète. Un personnage dont finalement on connaît assez peu de choses avec certitude. Ce qui n'est pas plus mal, je pense, car son anonymat, tout comme celui de cette citation de départ, permet à chaque homme, chaque femme de toute époque de s'identifier avec ses propos. En parlant du Qohélète, récemment j'ai entendu à plusieurs reprises des amis me dire que son message pouvait se résumer en cette seule phrase: la vie, ça vaut pas la peine d'être vécu. Un message plutôt pessimiste, donc. C'est vrai que l'Ecclésiaste n'hésite pas à poser des questions existentielles. Il fait, pendant tout le livre, un bilan de la condition humaine. Comme nous aussi, nous en faisons parfois. Quand on regarde en arrière sur notre parcours, quand on analyse ce qui a marqué ce parcours-là, on y voit nos réussites, aussi nos échecs, on y voit des espoirs déçus, mais aussi des surprises inattendues. Toutes ces choses, elles apparaissent aussi dans le bilan de l'Ecclésiaste sur la vie. Mais, heureusement pour nous, il ne s'arrête pas là. Son analyse le pousse à chercher au-delà, à s'interroger sur cette question que nous nous posons aussi ce matin ensemble: à quoi consacrer mon énergie ? Alors le premier constat de l'Ecclésiaste porte sur une injustice frappante. Les bons, comme les méchants, ont le même sort. Leur vie les mène à la mort. Peu importe leurs actions sur terre, leur dévouement, leur piété, ils vont tous vers un même terminus, la mort. La première réaction face à ce constat, ce serait: mais quelle injustice ! Quelle injustice ! Parce que ni les méchants, ni surtout les bons, n'obtiennent un sursis à ce terminus. Et même celui qui accomplit un rite religieux, nous dit le texte, n'obtient aucun sursis. Un rite religieux, aujourd'hui on pourrait dire même celui qui va à l'église tous les dimanches, même celui qui récite ses prières, même celui qui donne son argent à l'église, qui donne sa dîme, même celui-là, même cette personne-là, n'obtient aucun sursis. Quelle injustice. D'un autre côté, quelle justice. Parce que, nous dit l'Ecclésiaste dans le tout premier verset, tout est dans la main de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. C'est lui qui nous offre en premier lieu cette vie, et c'est lui encore qui nous aide à la parcourir. Même si cette vie est remplie d'inconnus, et elle nous mène vers un au-delà dont on ne connaît presque rien, toute notre vie dépend de ce Dieu-là, et non pas, par exemple, d'un tribunal d'hommes qui devrait juger nos actions, définir si on a mérité quelques jours en plus ou non. Heureusement, toute notre vie dépend de ce Dieu-là qui est juste. Alors, quelle justice aussi ? Mais alors une question se pose. Si les bons, comme les méchants, subissent un même sort, quel intérêt est-ce qu'on trouverait à faire le bien, nous-mêmes ? La plupart du temps, faire le bien nous coûte. Ce n'est pas une solution de facilité. Ça nous coûte de travailler pour mériter un salaire, plutôt que de mener des petites arnaques à gauche à droite pour gagner un peu d'argent. Ça nous coûte de réviser pour un examen, plutôt que de tricher sur la copie du voisin. Ça nous coûte de nous montrer fidèles vis-à-vis de nos amis, plutôt que de porter des petits ragots dans le dos qui permettent de nous élever nous-mêmes. Faire le bien nous coûte, ça a un coût pour nous. Et pourtant, malgré ce coût, ceux qui font le bien ne s'en sortent pas forcément mieux que les autres. Dans ces circonstances, ne vaudrait-il pas mieux mourir maintenant que de s'acharner à faire le bien en voyant les malhonnêtes s'enrichir, puisqu'on va vers un même terminus ? Alors, malgré ces constatations, malgré aussi l'étiquette pessimiste qu'on colle souvent sur l'Ecclésiaste, il nous apporte à ce stade une autre lueur, une belle lueur d'espoir. Parce que pour lui, c'est évident, la vie vaut mieux que la mort. Et même plus. Le verset 4 nous dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Étrange comparaison. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le chien, à cette époque, c'est un animal méprisé. Le chien, c'est un animal sauvage, c'est un animal sale, c'est l'animal qui mange les cadavres, c'est un animal méprisé. À cette époque, le chien, c'est pas le chihuahua à la Paris Hilton, comme on en voit justement dans les magazines dont on parlait tout à l'heure. Le lion, par contre, c'est un animal noble, symbole de la force, symbole de la royauté. Aujourd'hui encore, on parle du lion comme du roi de la savane. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour l'Ecclésiaste, donc, il vaut mieux vivre, même misérablement, qu'être mort dans un état noble. Alors, puisque la vie vaut mieux que la mort, l'Ecclésiaste nous lance deux invitations qui seront les réponses à notre question « À quoi consacrer mon énergie ?» La première invitation, c'est la suivante. Profitons de la vie. Profitons de notre temps sur terre. Autrement dit, carpe diem. Profitons de la vie. Quelle belle invitation nous lance l'Ecclésiaste. Le verset 7 dit « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » N'est-il pas réjouissant de savoir que Dieu prend plaisir à ce que nous faisons ? Il prend plaisir à qui nous sommes ? À quelles sont nos passions, à nos activités. Tout cela ne le rend pas indifférent, il y prend plaisir parce qu'il nous aime. Dans ces circonstances, c'est à notre tour d'avoir du plaisir à ce que nous faisons, de le faire avec joie, de se réjouir des petites choses comme du pain que nous mangeons, du vin que nous buvons. Si Dieu prend plaisir à tout cela, alors pourquoi pas nous-mêmes ? Et en même temps de ce verset, des impératifs de ce verset se dégage presque un sentiment d'urgence. Ne tarde pas à profiter de ce que tu as. Profites-en maintenant. C'est une urgence. N'attendons pas de profiter pour profiter d'être jeune, d'être à la retraite, d'être en bonne santé, d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir des amis. Tous ces objectifs que nous nous fixons. N'attendons pas de les atteindre pour déjà profiter de ce que nous avons. Si Dieu prend plaisir à ce que nous faisons, pourquoi n'y prendrions pas plaisir nous aussi immédiatement ? Pourquoi attendre d'autres états, d'autres biens ? Je vous invite à réfléchir en votre fort intérieur. Y a-t-il des choses dont nous avons honte de profiter aujourd'hui ? Dans votre famille, vous avez peut-être honte de dire que vous aimez sortir boire un verre ou deux avec des amis. Dans votre travail, vous avez peut-être honte de dire que vous partez en voyage. Dans votre église, vous avez peut-être honte de dire que vous ne viendrez pas au culte parce que vous souhaitez passer du temps avec votre famille, vos voisins, votre époux, votre épouse. Pourquoi ce sentiment de honte ? Est-il juste ? Est-il légitime ? Et peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il doit l'être. Ou est-ce que ce sentiment de honte nous fait passer à côté de cet appel de Dieu ? Prends plaisir à ce que tu fais. La deuxième invitation de l'Ecclésiaste se trouve au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Soyons actifs, c'est cette deuxième invitation. Ici, l'horizon s'élargit pour nous. Il ne s'agit pas seulement de profiter de la vie, les pieds en éventail sur une belle plage de sable blanc et un cocktail à la main. Non, il ne s'agit pas seulement de cela. Nous avons un rôle à jouer dans cette vie. Il y a une notion de mise en mouvement, d'accomplir les activités de la vie de tous les jours, celles qui sont à notre portée. Autrement dit, soyons actifs aujourd'hui. Et les activités de tous les jours, ce n'est pas seulement de presser les fameux citrons pour le cocktail cité tout à l'heure. Non, ce verset nous mène plus loin. Ce verset, c'est aussi une réponse à l'interrogation de l'Ecclésiaste. Faut-il vraiment consacrer son énergie à faire le bien ? Est-ce que ça vaut la peine ? Eh bien oui, en tout temps, à chaque instant, car tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et cela inclut, je crois, cette invitation de l'Ecclésiaste inclut les activités qui nous plaisent et aussi celles qui nous plaisent moins, celles qui sont moins agréables. Aller au travail, aider un ami qui est dans le besoin, porter compagnie à une personne seule, agir pour le village ou la ville dans laquelle nous habitons, porter la valise de la dame âgée qui essaye de monter dans le train. Toutes ces choses font partie de ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec notre force. Alors arrivé à ce point, on est peut-être un peu découragé. On a bien apprécié la première partie de cette méditation qui nous invitait à profiter de la vie, un peu moins la deuxième qui nous met en mouvement. Avec tout cela, en effet, où s'arrêter ? Comment ne pas s'épuiser dans la somme des tâches à faire ? Il y aurait tant de choses à faire autour de nous. Comment faire le tri et comprendre quels sont les domaines dans lesquels Dieu nous invite à agir particulièrement ? Rassurez-vous, l'Ecclésiaste est bon. Il prend soin de nous et nous donne une astuce à l'aide de cette petite formule que vous avez entendue tout à l'heure, mais peut-être pas relevée, lorsqu'il dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Avec ta force. Nos actions dépendent de ce que nous sommes capables de faire, des limites de notre propre force, de nos propres forces, que nous devons connaître, reconnaître, comprendre. C'est à nous d'évaluer nos capacités. Nos actions dépendent aussi de ce que Dieu aime que nous fassions. Il y a un très bel équilibre dans ce texte entre jouissance et activité, entre dévotion à Dieu et sagesse dans ce que nous entreprenons. Revenons à cette citation avec laquelle nous avons commencé notre méditation. Il n'est peut-être pas de meilleure recette pour rester jeune que de consacrer son énergie à autre chose. J'aimerais vous dire que si vous consacrez votre énergie à mettre en pratique ce que nous avons médité ce matin, eh bien, vous ne serez pas plus jeune que les autres pour autant. Vous ne resterez pas jeune. Parce que la foi chrétienne ne nous promet pas de rester jeune, même si nous consacrons notre énergie aux œuvres qui plaisent à Dieu. La foi chrétienne ne nous promet pas ça, une éternelle jeunesse. La foi chrétienne, par contre, nous montre comment vivre la vie telle qu'elle est, en compagnie de Dieu. Elle nous montre à travers les enseignements de l'Ecclésiaste, entre autres, à travers le reste de la Bible aussi, à quoi consacrer notre énergie. D'une part, à profiter des biens de Dieu, de ce qu'il nous a donné dans notre vie. D'autre part, à nous rendre nous-mêmes actifs pour mieux vivre cette vie et peut-être, je le crois, pour permettre à d'autres de mieux la vivre. La foi chrétienne, par ailleurs, nous promet bien plus que ces faux espoirs de la société liés au culte de la jeunesse. La foi chrétienne nous promet une vie éternelle, une éternelle jeunesse quelque part dans l'au-delà, une vie parfaite dans la présence du Père. Elle nous donne cette espérance d'une vie éternelle parfaite à laquelle nous avons accès lorsque nous recevons le pardon de Dieu et que nous devenons les enfants de ce Père aimant. Et cette vie éternelle est un réel espoir pour nous. Ce n'est pas pour rien que Paul s'est exclamé dans sa lettre aux Philippiens « Mourir m'est un gain, mourir est un gain pour moi ». Non, je ne pense pas qu'il était dépressif ou confronté à des pensées suicidaires, pas du tout. Il était porteur d'une espérance, de l'espérance d'une vie tellement meilleure. Alors effectivement, à quoi sert-il de consacrer son énergie ici-bas à poursuivre une jeunesse qui nous échappe forcément ? Ou à poursuivre d'autres buts inatteignables, la richesse, le succès, la reconnaissance ? Consacrons plutôt notre énergie à profiter des possessions que nous avons la chance d'avoir et à nous rendre actifs au service de Dieu. Et le reste est entre les mains de Dieu. Pour nous, nous avons cette espérance en attendant son retour. J'aimerais vous inviter à prendre un temps de réflexion. Nous serons accompagnés par la musique pendant ce temps-là. Et à vous imaginer comme sur une échelle. Chaque étape de notre vie, nous gravissons un nouvel échelon. J'aimerais vous poser ces deux questions pendant le temps de méditation qui va suivre cette prédication. Quel est le prochain échelon que vous pouvez gravir ? Et en particulier, de quoi pourriez-vous mieux profiter ? De quoi pourrais-je mieux profiter aujourd'hui ? Quel est le bien que Dieu m'a donné dont je ne profite pas pleinement ? La deuxième question, quelle action à ma portée, qui est dans mes capacités, dans ma force, dans la force que j'ai, puis-je entreprendre aujourd'hui pour être au service de Dieu ? Aujourd'hui, bien sûr, et dans ma vie en général. Alors, je vous invite à méditer ces deux questions pendant que nous sommes accompagnés de la musique.